Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Je suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Des femmes artistes, activistes, politiques.
J'aime pas les garçons, ça fait mal, ça pique.
People are suffering. People are dying. How dare you?
C'est même pas la faute des juges, c'est le système.
J'irai où je veux, je tracerai ma route.
La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi.
Bienvenue dans la poudre.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Melra Bedia.
Puis pas que moi, t'imagines si ça touche moi et que moi j'ai la parole et que c'est cool et je suis humoriste et je fais trois vannes dessus. Mais imagine toutes les autres meufs. Parce qu'on est plus une majorité de meufs normales qu'une majorité de meufs super bonnes qui font de la mode, hein, je te le dis. Hein.
Quand j'ai commencé à réfléchir à cette série d'épisodes autour des femmes dans l'humour, je n'avais pas conscience d'à quel point le sujet était subversif. Bien sûr, j'avais dans l'idée que l'humour reposait sur des ressorts sexistes, qu'il était temps que ça change, et que le fait de mettre des femmes sur les scènes de stand-up, ça allait forcément changer les choses. L'enjeu de tout ça, c'est la voix, le bruit, le volume, l'inverse du silence. Être une femme et monter sur scène pour faire se marrer les gens, c'est exactement l'inverse de ce pourquoi on est programmé. Être une personne minorisée, qui dit très fort « Hey, écoutez-moi !» c'est foutre le bordel. Tout ça, je le savais. Mais avec Melra Bedia, j'ai pris conscience du caractère narratif de ce geste. On fait rire en créant des personnages, des destins, des rencontres et des coups du sort. Et quand Melra décide de faire rire avec un personnage qui est un peu elle, elle fait trembler l'hégémonie. La même que dans le cinéma ou la littérature. C'est le female gaze sur l'humour, le female love, si on peut dire. J'ai adoré cette interview. Vous allez voir, ça galope sec. Le cerveau de Melra Bedia carbure à 250 à l'heure. Et je suis pas sûre que vous soyez prêts et prêtes. Avec Melra Bedia, on a parlé de foot, de Diams. Incroyable le passage sur Diams. Et de presse féminine. Melra Bedia, vous êtes comédienne, scénariste, réalisatrice. Vous êtes aussi humoriste. C'est par le stand-up que vous vous êtes fait connaître. Et j'ai appris récemment que vous vous apprêtiez à remonter sur scène. Ça m'a mis en joie. Ça fait 3 ans que votre nom est prononcé avec insistance, je trouve. 10 millions d'abonnés à Amazon Prime vous ont vu dans Forte pendant le confinement, hein, plus ou moins en 2020. À peu près autant dans Miskina la pauvre que vous avez co-écrite et co-réalisée. Et je vous confirme, parce que j'ai vérifié, pour la jeune génération, c'est Ramzy que... Ah, c'est le frère de Melra Bedia. Et c'est pas Melra, ah, c'est la sœur de Ramzy, d'Eric et Ramzy. Donc bravo.
Ça a mis un peu de temps.
Ça a mis du temps.
Ça n'a pas été facile.
On y est. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite sur un truc. Ce personnage de fille un peu loseuse que vous nous vendez en interview, la copine myope rigolote, qui a pas de bol, pas de vie, pas de mec, qui fait du surplace, moi, j'achète pas. Parce qu'en vrai, vous avez signé pour 4 saisons sur Amazon, vous naviguez sans jamais vous planter dans le milieu du showbiz, les médias vous adorent, le cinéma vous tend les bras. On va pas pleurer pour vous, Melra, en vrai, vous déchirez, c'est ça la vraie histoire.
T'es gentil, mais j'ai pas de cœur, mais je suis en survolume. Parce qu'hier, j'ai vu un kinésiologue qui m'a pas dit, vous êtes pas en surpoids, vous êtes en survolume.
En survolume?
Voilà.
Alors attends, kinésiologue, on est sur du...
C'est un mec qui touche en gros 1 heure le poignet et il dit, à 4 ans, il y a eu une chute de vélo et après tu donnes 150 balles.
Ok.
C'est ce qui s'est passé.
Et il y a une chute de vélo à 4 ans ou pas?
Pas du tout, je me rappelle pas. Qui se rappelle de ce qu'on a fait au bois de Vincennes à 4 ans? Personne.
Mais je vais surfer sur le truc parce que sur volume, c'est intéressant. Ça peut aussi avoir on peut aussi parler du son. Est-ce que
exactement.
Vous n'êtes pas un peu trop vocal si, pour la société, parler trop
oui,
fort?
Oui, si, je crois que je suis un peu ce qu'on appelle une grande gueule. Hein, et je parle pas d'RMC. Hein. Non, vraiment, d'ailleurs, c'est ça. À chaque fois qu'on m'a proposé des rôles au cinéma, c'était pour faire soit la Kaira, soit la grosse de service, soit la grande gueule. Parce que c'est rare une femme qui parle un peu fort, apparemment.
Mmh. Ouais. Bon, du coup, ce paradoxe que je souligne là, où en fait vos personnages, c'est toujours un peu de la loose, et en fait, en réalité, vous cartonnez, vous sentez ce paradoxe dans votre vie quotidienne ou...
Non, pas des masses. Parce que là, par exemple, avant de venir, je suis arrivée sur mon scooter et j'ai perdu les clés.
Ah.
Donc, je suis vraiment cette loseuse, cette miskina du quotidien. C'est vrai, pour le coup, c'est un petit biopic mélangé à moi qui arrive à arnaquer les gens en rendez-vous chez Amazon et faire des saisons de séries. Mais en vrai. je fais quand même un peu de surplace et je suis un peu une loseuse.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir réussi, en étant si jeune, à mettre en place une narration autour de votre vie. C'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que vous êtes vous-même un personnage, en fait, dans la vie quotidienne, et vous avez réussi à transposer ce personnage dans des séries, dans des films.
Bah, c'est gentil, merci. On se fait un câlin à la fin ou maintenant?
C'est comme tu veux, c'est comme vous voulez.
On se tutoie, ça y est.
On se tutoie.
Ouais.
Alors, on se fait un câlin à la fin parce qu'on a les micros qui sont bien installés.
Je comprends, et là, je me suis dit, comment je vais faire? Je vais jouer au... Ouais,
ça techniquement, on a un petit souci. Alors, je t'ai entendu dire quelque chose qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, et je me demande si le secret, il n'est pas là.
Ah.
T'as dit, moi, à la base, j'étais hyper bien dans ma peau. C'est la société qui m'a fait sentir pas à ma place.
Ouais, en vrai, bah, quand t'es jeune, moi en tout cas, je sais qu'à mes 10-13 ans, j'ai commencé un peu à analyser bah, le collège, après le lycée, les potes autour, les mecs, une vie d'une ado de banlieue, d'Annie Genevilliers, fin de ligne 13, tu vois. J'essayais de regarder avec mon regard de myope ce qui se passait autour de moi. Et c'est vrai que je me suis dit, moi à la base, ça va. Et en fonction de comment les mecs me regardaient, les filles me regardaient, la télé me regardait aussi, la société me regardait, je me disais, bon, je crois qu'il y a un souci, je suis pas dans une case normale et je rentre pas dans beaucoup de cases d'ailleurs. Et c'est vraiment dans le regard des autres que je me suis dit, ah merde, je crois qu'il y a un souci et c'est à moi de m'adapter. Et donc c'est comme ça qu'après, tu as plein de complexes et tu te dis, bon, ben, je vais faire plein de vannes pour me défendre et pour être un peu populaire, parce que sinon, j'ai de la moustache, quoi. Ça partait de là.
Mais c'est quand même cool de partir d'un endroit de l'enfance, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, où on est bien dans sa peau, où on vient d'un endroit où on se sent aimé, où on se sent.
Quand t'es enfant, tu crois que tout est cool. Hein.
Ouais.
T'as juste envie d'aller jouer avec tes potes, rentrer à 19h, pas prendre de douche et regarder la télé en vrai de vrai. C'est vraiment autour, ce qui se passe autour, qui te met la puce à l'oreille pour le coup, tu vois, et qui te dit, bon, bah, ok, quand je me regarde dans le miroir, je crois que c'est pas ce qu'il faut voir, alors d'après les gens. Mmh. Et c'est là que tu commences à avoir des petits soucis, ouais.
Mmh. Alors, t'as grandi à Gennevilliers. Je t'ai entendu dire, on était un peu les Kardashians de Gennevilliers, ouais. En parlant de ta famille. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consistait, être les Kardashians?
Bah, en vrai, moi, je suis la petite sœur de Ramzy, d'Eric et Ramzy, et je suis arrivée pile, je suis la dernière génération d'une grande famille un peu mélangée où on vivait tous ensemble. Et comme je suis la petite dernière et j'étais la préférée de Ramzy, bah, j'ai reçu tous les kiffs de quand ton frère il devient connu et qu'il commence à gagner des sous. Et donc moi, j'ai pas trop vécu la cité, la galère, la hesse, comme on dit. Et c'est vraiment Ramzy qui m'a emmené faire mes courses dans des vraies papeteries dans le 16e. Enfin, tout ce qu'il a pas eu, il l'a mis sur moi. Et du coup, je suis pas devenue une connasse parce que je dis quand même bonjour, merci, au revoir. Ça, on m'a fait...
Ça, c'est l'éducation des parents, des grands-parents.
Des grands-parents, ouais, quand même. Mais j'aurais pu vite virer connasse parce que j'ai eu un grand frère qui m'a laissé une carte bleue à 13 piges. Et moi, je prenais toutes mes copines de Gennevilliers et on allait... chez Citadium ou aux Galeries Lafayette, et je disais, venez, en plus, il a un compte G7. Genre, j'étais vraiment la Kardashian, mais mixée à Arlette Laguiller, parce que je voulais que tout le monde m'accompagne. Et je disais, alors, ok, là, c'est la carte de sa société, on peut tous s'acheter un truc à 100 euros. Tu sais, je faisais des règles et tout.
Tu faisais un peu la compta quand même, quoi. Tu canalises
ni compta,
un peu les choses.
Ni moi, je m'offrais des trucs à 200, tu vois.
Ouais, donc t'as eu la vie de princesse.
Ouais, franchement, j'ai eu un grand frère, j'ai connu la célébrité, et même l'opulence pour une petite meuf de 13 piges. Bah, que j'avais pas eu à 11 ans parce qu'on n'avait pas trop d'oseille, quoi.
Mmh. Et t'as fait aussi ta scolarité, d'ailleurs, comme Ramzy, dans une école privée catholique.
Ouais.
C'est pas banal. Comment ça se fait? Et c'était comment?
Bah, je me rends compte déjà que c'est pas lié à Ramzy, parce que et ma sœur Rania et mon autre frère Reza et Ramzy, enfin vraiment, on était tous dans cette même école à Asnières. Et on a eu un... Moi, j'ai mon grand-père qui nous a élevés. Et il était chauffeur RATP la journée. Et la nuit, il avait réussi à acheter la licence du taxi. Et du coup, il bossait la nuit et il s'est dit, OK, le collège, l'école en bas de la cité, elle n'est pas ouf. Donc, je vais essayer de mettre mes enfants et de me bagarrer pour qu'ils aient une éducation décente et qu'ils soient tolérants, ouverts. Et du coup, on faisait du catéchisme et j'étais inscrite à des cours d'échecs. Donc, voilà. Et après, je rentrais dans la cité. J'avais pas le quotidien de tout le monde, quoi.
Ouais, c'est marrant parce que t'as quand même un peu une enfance de HPI aussi, un peu. Quoi, t'as eu ton bac à 16 ans.
Ouais.
Moi, je voyais ton parcours, je t'ai dit, mais en fait, le secret, c'est qu'elle est surdouée, en fait.
Je sais pas, franchement, c'est un peu la nouvelle mode. Dès que j'allume la télé, que je vois 7 à 8, tout le monde est HPI et tout. Et même quand je vois la série d'Audrey Fleurot, je sais pas si j'ai envie d'être HPI en vrai.
Ouais, c'est vrai.
J'ai envie juste d'être une meuf stylée. HPI, ça me fait rub. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mode.
Je pense que si t'avais 8 ans aujourd'hui, tu serais diagnostiqué HPI de ouf, en vrai.
Moi, ils m'avaient pas diagnostiqué, j'ai juste sauté une classe et je... Je pense ma mère, par flemme, a dit oui, c'est vrai. Mais c'était vraiment par flemme, quoi, qu'elle a accepté. Mais en vrai, je sais pas, j'aimais bien l'école et en même temps j'avais une petite pression de mon grand frère Ramzi qui disait faut pas faire comme ce qu'on m'a dit, moi on m'a pas bien guidé, tu peux faire une prépa, c'est pas parce qu'on est des rebeux de banlieue que t'auras pas le droit de faire une prépa cagne hypocagne. Enfin, j'ai eu un grand frère qui m'a donné les clés là où les autres avaient pas la chance d'avoir les clés.
Pour il rêvait grand pour toi quoi.
Ouais.
Ouais, c'est beau.
C'est mignon.
Et j'ai vu que t'avais à 15 ans acheté la Torah, la Bible et le Coran. Est-ce que c'est ça d'avoir un rapport à l'islam mi-bobo, mi-tradi, comme je t'ai entendu m'en parler?
Bah non,
pas m'en parler d'ailleurs, en parler dans un podcast que j'écoutais.
Oh, t'es mignonne, t'as écouté, tu travailles et tout.
Je travaille de
genre, il y a un travail de fond, des trucs en amont.
Bien sûr. J'ai écouté tout ce que t'as dit.
De toute façon, t'es de gauche comme moi, ça se voit qu'on est de gauche ici.
Non mais vas-y, parle-moi de ce rapport mi-bobo, mi-tradi à l'islam, parce que je trouve ça hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi vachement dans Miskina, par exemple.
Ouais. Bah en fait, pour être très honnête avec toi, moi, mes grands-parents, c'était un peu la figure de l'islam. C'est-à-dire que je voyais mon grand-père aller faire ses ablutions, aller prier, être dans son coin, nous dire ne faites pas de vagues, pas d'embrouilles. Il avait un islam tellement discret, et c'est même pas un islam discret en fait, il avait le vrai islam, c'est-à-dire que ça fait partie de la sphère du privé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus du burkini que des SDF qui dorment dehors. Je trouve ça assez incroyable, d'ailleurs. Et quand on regardait, je sais que pour Ramzi, c'est pareil, quand on regardait notre grand-père, c'était l'un des mecs les plus sages du monde. Et il s'occupait de sa famille. À côté de, il avait les vraies valeurs de l'islam. C'est pas l'islam CNews, c'est pas l'islam qui fait peur. C'est l'islam trop stylé du papy, comme tu peux trouver le christianisme chez ton papy, ou le judaïsme chez ton papy, ou le bouddhisme même. En tout cas, c'est ça qui, moi, m'intéressait. Et quand j'ai eu 14-15 ans, je me suis dit, bah, pourquoi je mange pas de porc? Pourquoi je suis musulmane au final? Parce que c'est trop bien, j'ai la foi, mais j'arrivais pas trop à l'expliquer. Et j'étais à la FNAC Saint-Lazare, parce que je traînais à Saint-Lazare, parce que sur la ligne 13, c'était vraiment genre à 3 stations de Asnières. Et avec mes copines, on se disait, bon, on va faire un tour, on galère, tu flânes à la FNAC, quoi, comme tout le monde. Et au lieu de m'asseoir accroupi et de lire des mangas, je me suis dit, attends, je vais aller dans ésotérisme, spiritualité, j'aime bien ce rayon. Et je me suis dit, pourquoi j'achète pas les trois? On m'a toujours dit, ça se suit. Pourquoi il y aurait des embrouilles? Pourquoi le judaïsme serait mieux que l'islam? Pourquoi l'islam serait mieux que le christianisme? Et quand j'ai lu les trois, je me suis dit, mais bon, enfin, c'est la même religion.
C'est la même histoire.
Il y a un seul Dieu. En plus, moi, je suis musulmane. Donc après, j'ai vu ça comme trois iPhones. Je me suis dit, t'as l'iPhone 12, t'as l'iPhone 13, et l'islam, c'est l'iPhone 14, et c'est que des mises à jour. Et pourquoi on se fait la guerre? En fait, on est tous des cousins, et c'est génial. Et je l'ai vécu comme ça. Alors peut-être c'est un peu utopiste, mais pour le coup, quand j'ai lu, je l'ai compris en trois tomes. C'est le Seigneur des Anneaux, quoi.
J'adore.
Sans vouloir blasphémer, il y a vraiment un truc de ça suit, quoi.
Non, mais la vulgarisation que tu viens de faire est ouf, franchement, mais j'espère que ça va être diffusé et répété ce que tu viens de dire, c'est tellement important. Et en regardant aussi ton modèle familial, je me suis dit que c'était intéressant parce que tu venais d'une famille finalement qui était complètement différente du modèle hétérosexuel super normé, où finalement tu dis que c'est un matriarcat chez toi, il y avait ta grand-mère qui était très présente. J'ai vu sur une vidéo ta grand-mère, elle a l'air complètement incroyable.
Bah, alors là, c'est pas la vraie, mais la fausse grand-mère qui joue
sur
dans Miskina.
Instagram, t'as pas fait une vidéo avec ta grand-mère où tu vas sur Amazon?
Mais c'est
et
celle
tout
de Miskina.
Ah, c'est celle de Miskina. Mais
ma vraie grand-mère, elle est décédée, paix à son âme, mais en vrai, elle ressemble comme deux gouttes d'eau, mais même dans le caractère, à la grand-mère dans Miskina. C'est pour ça que j'ai été hyper frappée, genre au casting. J'ai dit, bah attends, c'est un signe de Dieu, il me l'envoie, quoi.
Incroyable.
Et chez nous, et même Ramzi, là, on faisait des interviews pour un film qui est sorti, on a fait un film ensemble, et je l'écoutais parler. Et c'est vrai que chez nous, c'est les femmes qui décident. Vraiment. J'ai le souvenir de ma grand-mère qui donnait les grandes décisions familiales, et ma mère pareil, et ma sœur pareil. Et quand Ramzi vient le dimanche, il parle pas en fait. Il fait le mec super quand il va faire France Inter et l'échappée belle, et c'est génial. Mais en vrai, quand il est le dimanche autour du couscous, il ferme sa gueule, et c'est bien.
Et c'est ta mère et ta grand-mère qui parlaient quand t'étais petite, qui occupaient l'espace.
Ouais.
Ouais.
Et on est, je te dis, la figure que j'ai, le seul référent masculin que j'ai, moi, c'est mon grand-père, parce que mon père, je l'ai pas trop connu, mais mon grand-père est Ramzi.
Ouais.
Et c'est des mecs discrets qui se pliaient à nos décisions. Donc ça me fait marrer quand on dit « Ouais, mais les musulmans, les maris, ils frappent les femmes et ils les voilent. Et en plus, c'est eux qui décident. Bah, » alors, pas chez moi, en tout cas.
Ouais. Et surtout que ton frère, il voulait que tu fasses HEC et tout. Et il te voyait, au contraire, prendre le pouvoir. Et,
oui, il était dans un truc. Très loin, quoi. Pas du tout... Enfin, j'ai plus vu de la misogynie sur des plateaux télé que chez des musulmans de banlieue. Je sais pas ce qu'on raconte ou ce qu'on voit, mais moi, en tout cas, je l'ai pas vu.
Je sais pas, c'est peut-être du racisme, faudrait creuser.
Je sais pas si c'est du racisme, il serait pas culotté à ce point-là.
Non, la France, elle est pas comme ça.
Non.
Je voudrais qu'on parle de ton expérience avec le foot.
Ah ouais.
Parce qu'adolescente...
Tu vois, t'as un super... Tu sais que l'espérance sportive, t'en as une dans le 19e, alors toi, je pense que c'est pas le 19e. Mais ce pull, il est assez ouf. Il y a une équipe qui s'appelle comme ça, l'Espérance.
Écoute, je suis complètement... Je l'ai trouvé genre dans un Emmaüs. Je l'aime tellement.
Mais depuis tout à l'heure, je me dis... Wow.
Mais j'ai jamais compris ce qu'il y avait marqué dessus, en fait. Je n'ai pas la ref.
Bah, c'est un club. C'est un nom de club de... Bah, alors, du coup, c'est où ça? Arcy. Canly-Arcy. Bon, ça doit être un truc de province. qu'on connaît pas trop, mais il y en a une qui est très connue, une équipe dans le 19e.
Arrête.
Je te jure. Elle...
J'ai trouvé dans une friperie à Bruxelles d'ailleurs, maintenant je me remets le...
Ah, bah c'est, ça doit... Ouais. On va taper sur Google qu'on lit Arcy. Okay.
On fera la petite recherche tout à l'heure.
Il est trop stylé en tout cas.
Bon, on fera une photo ensemble pour qu'on puisse après mettre sur Instagram, demander les infos aux gens et tout. Mais alors toi, donc t'as fait quand même 2 ans de foot à très haut niveau quand t'étais ado, quand t'avais entre 11 et 13 ans. Si j'ai bien compris, t'étais au PSG jeune. Okay. T'as même été repéré par l'équipe de foot féminin de Cleveland aux États-Unis. C'est quand même aussi assez hallucinant d'avoir été hyper doué en foot, en fait.
Mais c'était pour un mec. Hein. Je suis désolée.
T'es allée faire
je voudrais faire une réponse féministe, mais ouais. Je suis tombée amoureuse d'Arnaud Messager. Et je me suis dit, pour qu'il me regarde, ce mec, faut que je lui parle.
Ouais, mais c'est malin, parce qu'on n'est pas nombreuses malin. À avoir fait ce move de devenir super forte en foot. Pour
oui, mais je ne l'avais pas vu venir, tu vois. J'avais pas prévu. Au Mac, je me suis dit, il va juste me choisir une fois dans son équipe, et un jour, il va accepter de me tenir la main dans le rang. Et au final, bah, je suis devenue forte au foot, j'ai oublié Arnaud Messager, et après, j'ai été passionnée de football.
Et t'en fais encore aujourd'hui ?
Moins, parce que j'ai grandi et tout ça, mais je regarde toutes les compétitions. C'est-à-dire que tu peux me voir regarder Metz-Nantes, en premier degré, et jouer sur Betclic. Mmh. Je suis ce gars-là, en fait.
Et tu regardes aussi le foot féminin ?
Ouais, bah, quand il y en a, ouais. Il y en a beaucoup moins, et c'est moins présent, et c'est dommage, mais... Ça commence à bouger, donc franchement, il faut quand même kiffer un peu.
Et du coup, t'as fait des compètes, t'as pratiqué intensément sport quand on est adolescent. C'est des choses qui sont assez formatrices, je trouve. Qu'est-ce que ça t'a appris, finalement, cette expérience?
De toute façon, les valeurs du foot, en vrai de vrai, elles sont assez géniales. Si tu regardes bien, déjà, c'est un sport collectif, donc tu penses à l'autre. C'est pas un sport individuel. Je ne critique pas les sports individuels, mais quand tu te construis, comme tu dis, entre 10 et 14 ans, c'est génial de penser que t'es pas seul sur le terrain, tu vois. Et il y a des valeurs, bah, je sais pas, le respect, le dépassement de soi, tous les trucs qu'on note sur un papier et tu te dis, mais c'est vrai, mais comment tu le verbalises, comment tu le...
matérialises.
Voilà.
Comment ça se traduit dans ta vraie vie.
T'as capté,
quoi.
Frère, voilà. Ouais, c'est ça, hein, comment tu le matérialises. Il y a un vrai truc où, sinon, c'est des grandes valeurs que tu lis au CDI, à l'école. Ouais. Et après, quand t'arrives sur le terrain, tu te dis, ah oui, en fait, c'est ça. Et même, il y a un truc où tu te déplaces. Donc, nous, je me rappelle beaucoup, moi, ce qui m'a marqué au PSG, c'est qu'on faisait beaucoup les matchs. Souvent au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye, donc au PSG, mais souvent on allait voir les équipes visiteurs. Et du coup, on a fait un petit tour de la France quand même.
Et, ouais.
Et finalement, tu te bouges, tu rencontres l'autre, tu apprends le respect, faut pas s'énerver, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de trucs assez cool dans le sport quand même, si tu t'y concentres un peu et que tu oublies les côtés un peu nazes.
Et si ta mère s'était pas opposée à ce que tu partes à Cleveland,
on ferait pas ce podcast. Je pense vraiment,
tu serais partie dans une carrière.
Ah ouais, c'était ma passion.
Tu serais la Megan Rapinoe française aujourd'hui.
J'aurais adoré, peut-être.
Probablement.
En tout cas, j'aurais été bonne puisque j'aurais gardé un cardio régulier. Donc, j'aurais pas eu le même corps déjà. Ça aurait été sympa. Mais je sais pas si j'aurais été rigolote. Je suis pas sûre.
Alors, on a parlé un peu de ton côté HPI, de ton bac à 16 ans, que tu minimises un peu comme tous tes succès. Hein. D'ailleurs, tu dis non, mais en fait, c'était un bac L, etc.
Donc, ouais, bac L, moi, on m'a toujours dit, excuse-moi, je sais pas, t'as fait un bac L ?
Oui.
Ok.
On minimise pas les bacs L, s'il te plaît.
D'accord, mais t'as remarqué que quand on était au lycée, on était les fumistes, on était les intermittents, on jouait au bolas.
Moi, j'ai fait un bac L, SP Math, avec option latin. Donc, si tu veux, j'avais un peu fait le bac L des intellos.
Bah, c'est l'équivalent d'un bac ES, hein, ce que t'as fait, je pense.
Limite border. Ah, ouais. Mais quand même, philo, coef 7 et tout, c'est pas rien.
Philo, c'est toi. Moi, j'avais pas tout compris à la philo, mais c'est vrai que c'était toi et ta chance. C'était une fois sur deux.
Complètement aléatoire, la philo.
J'ai jamais compris. Je sais pas, c'est pas la gueule, pour le coup, c'est cool. Mais alors vraiment, j'ai jamais compris les notes. J'ai jamais compris.
Mais t'aimais bien quand même la littérature.
Littérature, j'adorais. Philo, je savais que c'était une enfume. Je savais pas, enfin, tu vois. Mais l'anglais, les langues, moi, j'étais douée là-dedans et j'aimais bien. Puis il y avait l'option théâtre aussi, c'est ça que je kiffais.
Ah, donc t'as commencé à ce moment-là un peu à...
Oui, mais pas parce qu'il y avait plus de place en sciences économiques et sociales, en fait. Moi, vraiment, on m'a fait à Agnières, tu veux faire quoi? Je me rappelle, c'était à l'oral et j'ai dit SES. Ils m'ont dit, non, par contre, il reste une place en option théâtre. J'ai dit, ouf.
Ok.
Voilà, ça s'est passé comme ça, mon avenir.
Ok, incroyable.
Et du coup, ouais, je voulais. Et j'ai kiffé faire théâtre un peu par hasard, quand même. Mais j'ai kiffé.
Mais il y avait quand même une petite vocation, non?
T'avais... Bah, j'aimais bien faire rire, et parce que c'était mon petit mécanisme de défense de me vanner avant qu'on me vanne, tu vois. C'était mon grand truc à moi. Comme ça, au moins, si j'avais pas le mec que je voulais, bah, j'étais sa pote.
Au mieux. Au pire, quoi.
Au mieux, au pire, ouais.
Ouais, ouais. Ok, donc bac L, option théâtre. Finalement, tu te dis, je vais faire une fac de langue parce que t'as 16 ans et que c'est compliqué à 16 ans.
Franchement, j'avais pas de grande vocation, tu vois, je savais pas ce que je voulais. Enfin, on sait pas à 16 ans. Enfin, il y en a qui savent et c'est super, mais en général, tu sais pas ce que tu veux faire à 16 ans, c'est pas vrai.
Et là, donc, tu tombes sur Diams, qui est une pote de ta sœur.
Ouais.
Et moi, cette partie de ton histoire, je la connaissais pas, en fait. Ça m'a fait halluciner, surtout... Surtout qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec le recul, on capte encore mieux à quel point Diams, c'était, ça a été un peu une grande sœur, en fait, pour beaucoup, beaucoup de
ouais,
figures.
Ouais, complètement, bien sûr.
Mais de la littérature, du cinéma. Donc, tu veux bien...
Mais elle a aidé tellement de meufs, en fait, on s'en rend pas compte. Et puis parce qu'elle a été salie aussi.
Ouais.
Il y a un truc qui est pas trop cool. Et moi, je le savais parce que j'ai vécu sa conversion, sa descente aux enfers et plein de choses. J'étais vraiment proche d'elle, mais j'étais une enfant. Donc j'avais un regard de petit ado qui comprenait pas trop ce qu'elle avait, la dame.
T'avais pas le recul
Non, je me disais, pourquoi elle va pas bien? Elle a tout. T'sais, en plus, tout le monde pense comme ça. Et après, quand tu grandis, t'intellectualises un peu plus et tu te dis, bah oui, en fait, tu peux avoir tout et être malheureux. Enfin, c'est pas lié du tout, en fait. Et je ne comprenais pas. Je l'ai suivi pendant 2 ans et demi en tournée et je voyais quelqu'un qui n'allait pas bien. Et j'ai vu quelqu'un qui commençait à être bien grâce à l'islam. Alors, ça fait pas plaisir à tout le monde, parce que l'islam, c'est un truc qui fait peur. Je sais pas ce que c'est devenu, mais c'est devenu la maison hantée des Français. Mais en vrai de vrai, si tu regardes bien, elle se serait lancée dans la cuisine, dans le judo, ou dans la couture, ou le canevas. C'est pareil, c'est quelqu'un qui va à fond, et c'est quelqu'un qui avait besoin d'aller mieux. Et ça a été Dieu et l'islam, donc tant mieux.
Bah ouais.
Moi, je suis très heureuse pour elle. Mais les gens, ils comprennent pas à quel point elle allait mal, je pense. Et surtout, ils font le rapprochement de... comme elle allait mal, elle a trouvé un barbu qui a dû lui dire « faut prier et voiler ». Enfin, c'est pas du tout
ça.
C'est
une forme de sexisme, comme si elle pouvait pas avoir pris ses propres décisions.
Et surtout, tu veux que je te dise, moi j'y étais. C'est elle qui disait au mec qui était rebeu, donc maghrébin, né musulman, c'est elle qui a appris à ce mec à prier. Donc tu vois, comme moi j'y étais, j'ai vu la vérité. Et je voyais les gens parler en disant « ouais, elle est avec un mec, il l'a voilé, il est hyper dur, il est rigoureux ». Pas du tout. C'est un mec qui ne savait même pas prier. C'est fou quand même, il vendait des converses. Enfin tu vois, c'est pas méchant, mais... Voilà, donc, mais bon.
Elle a repris le contrôle de sa narration récemment, elle a fait son
docu. Ouais, mais c'était. Les gens, ils ont eu le temps de la salir et je trouve ça ouf. Et quand tu regardes le documentaire de Diams, Selem, tu te rends compte quand même qu'elle est passée de la meuf la plus adorée de France à la meuf la plus détestée pour une étoffe.
Ouais.
Franchement, je te jure, c'est. Souvent, je me dis.
Moi, ça me rend dingue, de toute façon, la violence qui se déchaîne contre les meufs qui portent le voile. Enfin, ça n'a tellement.
Et moi, je comprends pas. Alors, peut-être tu vas m'expliquer, parce que t'es quand même une figure, je te suis depuis longtemps, moi aussi. Et je trouve qu'il y a. Explique-moi. Peut-être que sociologiquement, il y a un truc que j'ai raté.
Mais... justement, sociologiquement, c'est super intéressant. J'ai une amie qui s'appelle Anan Karimi, qui est sociologue.
Okay.
Faut vraiment que tu ailles écouter des podcasts ou des vidéos. Et elle a un bouquin qui sort là, tout prochainement. Je vais l'avoir dans la poudre, je pense. Je viens de faire un petit scoop et tout pour les auditeuristes. Et qui parle, en fait, du concept de bonne féminité. Et en gros, en fait, les femmes musulmanes... Et donc, le titre de son livre, c'est « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?»
Déjà, je vais l'acheter.
Mais non, mais tu vois, et c'est une référence aussi à Bell Hooks, qui avait parlé de ça pour les femmes noires aux États-Unis.
Okay,
et en gros, en fait, c'est un espèce d'entrecroisement de sexisme et de racisme où finalement, on nie aux femmes musulmanes toute capacité à décider pour elles-mêmes. Exactement ce que tu viens de décrire pour Diams, tu vois.
Ouais,
comme
si
le fait de décider de se couvrir les cheveux, c'était pas une décision qu'elles allaient prendre.
Tu vois plein de meufs qui arrivent à libérer leur parole, à dire les choses, à s'accepter, à parler de la femme, du corps, et surtout à dire que les femmes, elles peuvent faire absolument ce qu'elles veulent. Et c'est ça, le féminisme, en vrai.
Bah, exactement.
Et je comprends pas pourquoi les femmes autres, elles peuvent être féministes, mais les musulmanes, non.
Bah, c'est exactement ce que dit Anan Karimi.
Ouais, c'est ça.
Franchement, j'ai pas parlé à sa place, parce que personne ne le dit mieux qu'elle, et je l'ai compris tout ça grâce à elle. Mais je veux dire, ce que tu viens de dire...
Et Diam, c'est le bon exemple.
C'est exalade.
Et puis Diam, c'est pas une arabe, tu vois. Faut que tu comprennes que c'est la meuf qui ressemblait à toutes les autres meufs. Enfin, tu vois, c'est rare, en plus, c'est quelqu'un qui avait du talent, elle parlait à toutes les femmes, tu vois. Et ça, c'était ouf.
Ouais.
Les féminines, les pas féminines, donc les garçons manqués, les meufs un peu frivoles, les meufs un peu rangées. Elle parlait à tout le monde, cette fille. Et en fait, c'est comme si elle les avait trahis. Et je comprends pas.
C'est fou.
Alors juste, elle allait pas bien, en fait.
Après, je pense que c'est aussi beaucoup les médias. Hein. Enfin, tu vois, il faut toujours aussi faire une distinction
entre... De toute façon, ils ont volé
des
photos d'une meuf qui va à la mosquée. À partir de là, normalement, on devrait même pas en parler.
C'était aussi pour vendre Paris Match, à un moment donné, cette couve. Hein. C'était aussi pour... parce que je pense qu'il y a une grande partie des Français qui en ont rien à péter, qu'elle soit musulmane ou non.
Bah, oui.
C'est une grande artiste, elle a fait des textes de ouf. Enfin, elle nous a fait danser.
Et surtout, ils pensent qu'elle allait pas bien. Du coup, comme elle allait pas bien, elle a trouvé refuge en islam. En fait, non. Elle était convertie depuis qu'elle avait 18 ans. Donc, elle a toujours été musulmane. Mais elle s'est juste intéressée à cette religion qui lui a tendu la main à cette... Enfin, tu vois, il y a un truc qui est assez injuste, je trouve.
En tout cas, il y a quelque chose dans l'histoire que, du coup, comme on a passé beaucoup de temps à parler de cette histoire de religion, on est passé à côté du fait qu'elle a donné des coups de main hyper importants à plein de meufs de son entourage, notamment à toi.
Ouais, c'est ça. T'as bien réorienté.
T'as vu comment
j'ai... Là, on partait en Iran.
On partait. Moi, j'adore. Je sens que... On va se prendre un café après.
Ouais, si tu veux. Franchement, tu veux pas des petites viennoiseries?
Si, il y a ça dans le coin. On va trouver ça. Mais raconte-moi, du coup, comment comment tu t'es retrouvée à 16 ans. Surtout qu'en fait, tu racontes hyper souvent cette histoire et moi, j'ai du mal à comprendre le saut qui se fait entre, à la base, tu l'accompagnes pour l'aider à sortir ses casquettes et ses chaussures et pour repasser ses t-shirts. Et en fait, deux minutes plus tard, tu te retrouves sur scène à faire des sketchs en impro, en ouverture de ses concerts à 16 ans. Qu'est pas ça?
Je sais pas. Mais elle est folle et c'est là où elle est forte aussi, Diam, tu vois. C'est qu'elle avait vu un truc que moi, j'osais pas voir, tu vois. C'est-à-dire que j'adorais faire rire. Mais il n'était pas question pour moi de monter sur scène et tout. Mais elle savait que ça devait être un rêve enfoui, tu vois, que je cachais comme plein d'autres rêves. Genre et elle m'a dit, viens faire une année sabbatique, tu réfléchis à ce que tu veux faire et tu verras après si tu vas aller en fac de lettres, en fac de... Et j'y vais avec elle. Et elle me dit, ça te fera de l'oseille, tu vas apprendre un métier, c'est super l'habillage, t'adores les fringues. En plus, il faut savoir que Diams, c'est l'une des meufs les plus dures au monde pour travailler avec elle. C'est-à-dire que c'est la meuf la plus perfectionniste que j'ai jamais vue. C'est-à-dire que j'ai pleuré. Moi, ma grand-mère, elle est morte, j'ai pas pleuré. Par contre, j'ai fait l'habillage de Diams, j'ai pleuré. Faut que tu comprennes à quel point elle est dure dans le travail, elle sait ce qu'elle veut. Et moi, je savais pas du tout que c'était un vrai métier, l'habillage. Je pensais que c'était, tu lui ramènes son jogging et tu rentres chez toi. Mais pas du tout. Déjà, fallait s'occuper des choristes, fallait s'occuper des musiciens, fallait les laver tous les jours. Bon, il y a plein de fois, j'ai pas lavé, je vous dis la vérité. Là, je peux le dire. Il y a plein de fois où il y a deux, trois costumes.
Révélation non. Dans la poudre.
Les costumes de Diams n'étaient pas lavés. Non, mais en gros, il y avait un truc où c'était un vrai travail, un vrai big up à toutes les habilleuses de France d'ailleurs.
Bien sûr.
Et tu sais, il faut mettre le briquet au bon moment parce que quand elle chante la chanson SOS, il faut qu'elle prenne le briquet, qu'elle fasse comme ça. Ouais. Moi, j'oubliais tout le temps le briquet.
C'est comme accessoriste sur un film.
Ah, mais c'est dur,
c'est des
exactement.
Les boulots qui sont très, très précis et exigeants.
Et du coup, elle pensait me faire une fleur, sauf qu'elle a signé mon arrêt de mort pendant une semaine, parce que tous les techniciens avaient de la peine pour moi et tout. Vraiment, j'en revois parfois qui me disent « ça va mieux », tellement j'étais traumatisée. Et je sais pas, la première date au Shabada, c'était à Angers, on avait fait une semaine, c'est de résidence où on répétait. Et la première date, on est au catering, et il y a tous les techniciens, et elle fait un espèce de petit pitch, un petit pitch de courage, de... Et elle me dit... À la fin, au fait, toi, tu vas faire la première partie ce soir. Et je dis, non, c'est pas possible. Déjà, j'étais en tachycardie de trouver le bon t-shirt noir où on voit pas son soutien-gorge, qu'il est pas blanc. Non, mais franchement, j'étais dans des doses, moi. Ça allait pas. J'allais chez Decathlon à Angers. Je connaissais tous les magasins de sport et tout. Non, mais c'est... Et elle me dit, je dis, mais c'est-à-dire, après, je vais la voir. Elle me dit, non, tu vas faire les vannes. Je dis, mais Mélanie, je sais pas, j'ai pas de sketch. Elle me dit, vas-y. Je monte ce soir-là sur scène parce qu'il fallait meubler. Il y a vraiment 5 minutes où il fallait que tout le monde aille se changer.
C'est pour chauffer un peu la salle et tout, c'est ça?
En fait, j'intervenais deux fois. Il y avait les premières parties. D'ailleurs, j'étais avec Madame Irma. Non, c'était Irma.
Irma.
Irma, Madame Irma, je l'ai appelée.
Irma, la chanteuse.
Irma, la chanteuse. Oh, il y avait Belle Oncle Saul.
Ah, oh, mais j'aime tellement Irma.
Et ben, c'est pour te dire qu'elle a été témoin de mes vomissements intempestifs pendant cette tournée.
Je savais pas ça.
Et c'était cool parce qu'on se partageait un peu la scène et c'était pas prévu. Surtout eux, c'était des vrais artistes. Moi, j'étais juste une meuf qui galérait, qui savait pas quoi faire après le bac. Et du coup, quand je suis montée sur scène, j'ai commencé à faire des impros sur le voile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des gens très bienveillants qui venaient aussi en salle la voir pour voir si elle se voilait, si elle mettait une casquette, si elle avait une capuche. Tu vois, il y avait vraiment ce climat pas cool. Et du coup, je montais, je détendais un peu l'atmosphère sur le voile, je parlais... du métier d'habilleuse, charrier Diam sur ses goûts de merde en stylisme. Donc, tout doucement, j'ai commencé à écrire sur scène avec les gens des impros qui sont devenus des mini-sketchs. Et après, j'ai fait 2 ans avec elle. Mais je saurais pas te dire pourquoi, ce jour-là, à Angers, elle m'a dit « tu vas faire les premières parties ». J'ai
génial.
Pas compris.
Mais peut-être aussi que, justement, comme tu avais ce regard bon, très intelligent, très politique sur le monde, et genre, ça suffit de te défendre du fait que t'es genre hyper, hyper sharp.
On va aller faire un brunch, je sais plus un café là.
Et peut-être que du coup, ça lui permettait de mettre une distance aussi. Peut-être qu'il y avait tout ce bruit de fond dans la société
sur
son sujet.
Ouais, je te jure qu'elle montait sur scène, c'était pas cool.
Tu venais un peu aussi mettre les pieds dans le plat, dédramatiser, parler directement du sujet qui fâche,
au moins. Après, elle avait un public qui était... Mais c'est juste qu'il y avait vraiment des gens mal intentionnés sur les dates.
C'est un truc de fou.
C'est ouf.
C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi la même chose. Donc, en fait, de fil en aiguille, tu prends goût à la scène et tu te retrouves à faire un stand-up. Ouais. Donc, ton premier acte public.
Tout à fait.
C'était ce stand-up qui s'appelait Fat and Furious. Et c'est pareil.
Ah, t'es bilingue, parce que t'as bien l'accent.
Fat and Furious. Wow. Je l'ai bien dit. Hein.
Et on n'est pas dans le 18e.
Un peu californien.
On est sur Rodeo Drive.
Et c'est encore une fois, je trouve que bon, ça peut être présenté parfois comme le spectacle d'une meuf rigolote, etc. Mais en fait, c'est extrêmement politique de venir dire grosse et furieuse. Il y a quelque chose qui est en fait, tu viens revendiquer ta place dans la société, dénoncer la grossophobie, même si le mot il n'était pas très
employé. Ouais, moi je préférais toujours faire des vannes en disant bourlet plutôt que ou charriant Guy Carlier et Magali Vaé, tu vois, plutôt que d'arriver et dire voilà, moi mon axe c'est de dire que le body positive c'est. c'est pas comme ça que j'en parle au quotidien, donc je trouvais que le pied de nez, il était là, fallait faire des vannes, il fallait détourner avec du second degré ou autre, tu vois, ou des vannes de beauf par moment et tout ça, mais c'est vrai que je me rappelle que l'intro de mon spectacle, c'était en gros, je suis un sommaire d'enquête exclusive, je sais que j'étais l'année entière éditoriale de Bernard de la Villardière. J'étais genre, je me disais, si je résume, je ne suis que
quota.
C'est pas
zone interdite.
Mais je crois qu'il a enquête exclusive.
Rapinaise, rassurément, j'ai des références de boumeuse, pardon.
Moi aussi, à l'époque, je disais Capital sur M6 le dimanche, bien sûr.
Avec Emmanuel Chien.
Ah, je l'adorais, Emmanuel Chien. C'était mon gars sûr. Mais non, mais du coup, je me rendais compte que je n'étais que quota et que si je me décrivais, j'étais une femme déjà. J'étais vierge. J'étais musulmane. J'étais myope. Et j'étais en surpoids. Enfin, il y avait un truc où. Je ne suis que quota. Et à moi-même, je dois être une majorité quelque part. Je me doute que, forcément, je touche des gens. Mais en tout cas, j'ai l'impression que si je me décrivais comme ça, forcément, j'étais les sujets préférés d'un Bernard de la Villardière ou de gens sur CNews maintenant. C'est beaucoup trop. Une meuf, elle est vierge. Et après, tu dis, ah, mais pourquoi elle est vierge? Mais est-ce qu'elle est vierge parce qu'elle est grosse ou est-ce qu'elle est grosse parce qu'elle est vierge? Enfin, tu vois, si tu commences à tout intellectualiser ou écouter les autres, tu te dis, ouais, il y a un problème à chaque fois qu'elle se décrit, cette meuf. Et je sais que ouais.
Et le geste de prendre un micro et de parler toi, on peut pas faire un geste plus politique, en fait plus revendicateur. C'est-à-dire plutôt qu'on de laisser les gens parler de toi, t'es venu faire ta propre narration et ça change tout quoi.
Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si j'ai été plus écoutée que les mauvaises personnes qui parlent des musulmans ou des femmes, tu vois. Mais en tout cas, j'ai essayé à mon petit niveau, tu vois.
T'as rencontré un public qui a été bienveillant?
Ah ouais, franchement, j'ai une petite frustration vis-à-vis du spectacle parce que je l'ai pas fini dans ma tête. Tu vois, il y a vraiment un truc où j'ai eu le Covid. On a eu le Covid tous ensemble, on était confinés et moi je devais partir en tournée. Et j'ai joué un an et demi, mais dans une petite salle, j'étais en rodage. Sauf que comme j'avais fait quotidien, c'était complet pendant 8 mois alors que c'était un rodage. Donc il y a plein de trucs où j'ai pas fini ce spectacle et je suis très 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 frustrée.
Ah, c'est ça qui s'est passé.
Et ça avait hyper bien marché pour le coup, mais c'était vraiment les prémices des prémices. Enfin, c'était le début d'un spectacle en début, fin de rodage, tu vois. Je peux pas te dire que je suis allée inonder la France de mes idées de... Grossophile, tu vois, non.
Grossophile, j'adore, je l'avais jamais entendu. Mais du coup, c'est ça, là, l'idée, tu reprends ce fil-là?
Ouais,
le fil grossophile.
J'aimerais bien, enfin, pas que grossophile, parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres trucs à dire depuis 4 ans. Il y a,
ouais.
Dès que tu laisses passer une Coupe du Monde, il y a toujours d'autres problèmes à noter. Donc, tous les 4 ans, il faut revenir sur celle, je pense. Mais en gros, ouais, le fait d'être grosse, déjà. Puis il y a des gens aussi qui ont utilisé ce truc de body positive, c'est super d'être grosse dans un but qui est pas terrible aussi, tu vois. Donc il y a des gens à critiquer de partout. T'as ceux qui sont bêtes, et eux, on a l'habitude, on sait les gérer. Et t'as les nouvelles têtes pensantes, bien pensantes même, qui arrivent et qui te disent « Ouais, mais c'est vrai que moi, je monte mes vergetures, et si j'éteins la lumière, elles sont phosphorescentes. » Et ça, je trouve ça too much aussi, tu vois.
Ouais.
Je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver, comme dans tout. Que ce soit la religion, le body positive ou même l'amour en général, il y a un truc, il faut trouver le bon équilibre pour chacun, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, quand tu vas sur Internet, il y a aussi des trucs où j'ai envie de dire, oui, après, on est gros, on a bien mangé, hein, faut se détendre. Hein.
Ouais.
C'est pas que malheureux hein, d'être gros. Mais moi, je l'aurais pas pris avec l'angle de body positive et je monte mes varices, tu vois.
Mais il y a pas mal de militantes, notamment Daria Marx, avec qui j'ai échangé là récemment, qui n'aiment pas du tout cette mouvance body positive.
Non, mais c'est bien, mais moi j'ai envie de dire, venez, on est body négative aussi. S'il y a des gens qui peuvent être body négative, c'est cool, non ?
On a aussi le droit de pas s'aimer.
C'est ça que je te dis, exactement. Et je comprends quelqu'un qui me dit, j'ai envie de maigrir. Tu vois, quand il y a eu toute la vague de body positive, j'entendais plein de filles super, mais qui disaient, oui, il faut s'aimer à tout prix. Mais si t'as des meufs qui s'aiment pas comme ça, elles ont le droit aussi. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'on pense pas à tout le monde. On pense.
Mais c'est ce que disait Daria Marx, c'est-à-dire en fait, c'est le cadet de mes soucis, moi, de m'aimer. Moi, j'aimerais bien pouvoir être soignée correctement, être respectée quand je vais chez le médecin, trouver l'amour. Enfin, je veux dire,
c'est
des préoccupations de base de
n'importe quelle femme. Bah oui, c'est ça. Et après, t'as aussi ce truc de, je sais pas pourquoi on parle pas de toutes ces marques qui, par contre, ne font pas de taille. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la marque Céline. Ouais. Je sais que je rentre dans des trucs oversize de mecs, mais c'est pas grave, je le vis bien. Je dis juste que quand t'as économisé un an ou que t'as bien travaillé, que tu veux te faire un beau cadeau et que tu vas dans des marques un peu genre les maisons de luxe, et bah t'y vas, y a pas ta taille. C'est très très grave. C'est pour ça que je voulais lancer Balenciaga, Givenchy, et Burberry comme le beurre, tu vois. Il y avait un truc de, j'avais envie de leur dire, oh les gars, moi aussi j'aime bien me faire des petits kiffs, avoir une belle pièce à la maison dans mon dressing, mais en vrai de vrai, Je te jure, le nombre de fois et l'humiliation que c'est d'aller dans un stand, tu dis « Trop bien, ma carte, elle va passer, je vais me faire un vrai kiff, je vais m'acheter une belle pièce », et qu'on te dit « Bah, ça s'arrête aux 40, hein.
Ça n'est pas possible.
Mais tu sais que c'est fou, en vrai. Ouais. En vrai, quand non, on mais en parle.
Évidemment, c'est... D'ailleurs, je pense que... Moi, la première fois que j'ai entendu parler de grossophobie, c'était dans la mode. J'étais journaliste
ouais.
de mode.
Ouais, bah oui.
Et d'ailleurs, je t'ai entendu avoir des discours très durs et parfaitement justifiés sur la presse féminine. Ouais, moi, tu sais, j'ai bossé 10 ans, ouais, c'est ça, moi, mon
origine. Ça va, tu t'en es sorti.
Là, t'as vu, je me suis extirpée.
Grâce à Dieu, c'est bien.
Non, mais c'est justement aussi par un mouvement de compréhension de ce que j'étais en train de fabriquer. C'est-à-dire que toutes les semaines, parler toujours de cette même meuf blanche qui fait du 36, qui est hétéro, qui a assez de fric pour s'acheter un sac à 1000 balles et tout, de qui je parlais, en fait.
C'est ça, ouais.
De personne.
Je comprends.
Et tu l'as dit, hein, que la presse féminine te faisait te sentir comme de la merde toutes les semaines quand tu voyais
ouais,
d'autres
kiosques. Et puis kiosques. Pas que moi, t'imagines si ça touche moi et que moi j'ai la parole et que c'est cool et je suis humoriste et je fais 3 vannes dessus. Mais imagine toutes les autres meufs. Parce qu'on est plus une majorité de meufs normales qu'une majorité de meufs super bonnes qui font de la mode. Hein. Je te le dis, hein, c'est... les gens ils achètent des magazines de mode pour rêver, pour s'évader et tout ça. Et si c'est comme ça que tu fais évader les gens en mettant des meufs qui ne leur ressemblent pas, ça je trouve que c'est le truc le plus grave. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mépris pour la presse féminine. Mais pas que elle, tu vois. Quand je sais que je ferai jamais la couve d'aucun magazine. Par rapport au format, je pense déjà.
Mais on sait pas.
En vrai, non.
Et franchement, vu et la même... vitesse à laquelle tu...
Non, je te jure, c'est des bâtards. Je te jure, genre, j'ai que des copines qui font des couves. Et je sais que c'est des bâtards. Je le sais, genre, c'est des bâtards. Et je parle même pas que de moi, je m'en fous, moi, d'aller en couve. C'est juste mettre des gens qui vont ressembler à nos futurs enfants, quoi, en fait. Ce serait bien. Hein.
Ouais.
Parce que moi, je vois ma nièce. Bah, j'ai compris, déjà, elle est cuite. Hein. Elle a pas de modèle, c'est naze. Mmh. Elle, vraiment, si je te cite les références qu'elle a, on est dans la merde. Hein.
Genre
bah, genre que des gens déjà que je connais pas, qui n'ont pas fait plus de 2 ans d'un cursus scolaire normal. Ouais. Et je te parle même pas des influenceurs, parce que eux, bon, je pense qu'ils vont disparaître. C'est vraiment, ils vont disparaître très vite, je l'espère. Mais en vrai de vrai, elles ont pas de vrais rêves, tu vois.
Ouais.
Elles ont des références, franchement, ça fait peur, quoi. Et tu te dis même... même parfois, ils ont un truc aussi, la presse féminine, enfin la mode en tout cas, c'est ils vont s'inventer une life de « Ah non, en fait, on va être irrévérencieux et on va mettre Aya Nakamura en couve. » Mais tu mets Aya Nakamura parce que c'est une énorme star, en fait. Tu mets pas Aya Nakamura parce que t'as une position et tu prends parti, c'est pas vrai. Même là, tu vois, il y a une forme de je sais pas, d'intérêt derrière, il y a un truc qui est malsain.
Même de présenter comme un geste politique subversif le fait de mettre en couve la meuf qui vend le plus de disques en France.
Mais alors c'est une star, genre, c'est une star, heureusement qu'elle fait la couve. Bien c'est sûr. Pas un événement qu'elle la fasse, c'est une star. Elle vend comme personne, elle est numéro 1, elle est belle, c'est une femme forte. Bah, et là, t'as envie de justifier derrière.
Évidemment qu'elle est
des vraies meufs.
Bah ouais,
non,
ouais.
Franchement, c'est pas cool. Je pense que je vais mourir et il y aura toujours pas de vraies meufs en couve.
Moi, je crois pas parce que j'ai l'impression que tu fais bouger les choses, comme on dit dans la presse féminine. Franchement, forte ou miskina, c'est quand même un truc assez fou. Et c'est important de préciser que c'est des rôles que t'incarnes, mais aussi que t'écris, que tu penses, même que tu réalises dans le cas de miskina. Et toi, t'as fait de la meuf grosse, mal dans sa peau, le personnage central, l'héroïne d'une fiction. Et ça, c'est déjà un énorme pas franchi dans cette représentation. Ouais. Je veux dire, jusqu'à maintenant, c'est ton personnage, c'est plutôt la meilleure amie de l'héroïne qui
toujours,
était mince et blonde. Quoi,
toujours, genre là, quand on me propose des rôles, alors là, on me propose d'autres rôles maintenant, mais quand même, au début, il y a toujours le truc de c'est la meilleure amie de l'héroïne qui est bonne, c'est la meilleure pote du mari qui est beau, ou lui qui est un peu pas dans la case, cool, même lui c'est un mec donc il a le droit, tu vois. Ouais, c'est une catastrophe. Mais ça va mieux dans le cinéma, moi, si je peux me permettre.
Bah écoute,
les gens prennent leur ordi et écrivent en fait, et ça se fait, et c'est trop stylé en fait.
Bah justement, je me posais cette question de l'importance de qui écrit. Parce que c'est quelque chose dont j'avais parlé par exemple avec Fanny Herrero, tu vois, ouais. En tant que scénariste, enfin, il y a beaucoup de personnes qui le disent. En fait, tout dépend de qui fait les scénarios. Et les scénarios, ils ont été écrits pendant des décennies par toujours les mêmes mecs blancs hétéros. Donc évidemment qu'il y avait toujours une bonasse qui se faisait culbuter, quoi.
Non mais du coup,
c'est important le moment où tu prends la plume, tu te constitues aussi des équipes assez variées pour écrire.
Bien sûr, mais moi je trouve que ça va de mieux en mieux. Et je suis beaucoup de l'autre côté, du côté atelier d'écriture, du côté, j'ai une productrice qui s'appelle Margot Marciano, elle est super parce qu'à chaque fois qu'elle me fait rencontrer des scénaristes, déjà il y a des meufs, ça fait 4 ans, il y a 5 ans elle me faisait rencontrer des mecs parce qu'il n'y avait que des mecs, enfin, on ne lui parlait, on ne lui proposait que des mecs et elle allait chercher, tu vois, elle allait à la sortie de la féministe, elle s'est bagarrée là, par exemple, je prépare un projet, il y a 2 meufs dans l'atelier et on écrit qu'entre meufs et c'est chambé et en même temps, dans Miskina, on est 2 meufs et après t'as des mecs, mais les mecs à chaque fois qu'il y a un problème, ils disent pousse. Ok, déconstruis-moi. Je sais que j'ai pas agi bien et tout. Je te jure, ils le reconnaissent. J'ai beaucoup de chance d'écrire avec ces scénaristes-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en train de bouger parce qu'il y a de plus en plus de scénaristes meufs. Il y a de plus en plus de scénaristes meufs qui veulent réaliser. Parce qu'avant, t'avais juste des scénaristes qui étaient pas très respectés comme beaucoup de scénaristes, les pauvres. Et maintenant, t'as des scénaristes meufs qui se disent « Ok, je vais faire mon projet, je vais aller au bout, je vais le financer et je vais écrire, en fait. » Et il y en a beaucoup, et je sais que ça bouge, parce que je le vois de l'autre côté, tu vois.
Et ça bouge et ça marche, parce qu'on avait aussi toujours le discours en face. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la presse féminine, hein, pour boucler sur un truc que je connais bien. Genre, on ne peut pas mettre une meuf grosse ou une meuf noire en couvre, parce que ça vend moins bien.
Je suis pas sûre, est-ce qu'on peut essayer? Tu sais quoi, c'est mon rêve.
Exactement, et tu as quand même démontré avec Forte, c'est délirant, c'est 9 millions, 10 millions de téléspectateurs. Miskina, ça cartonne, tu es reconduite pour une deuxième saison. C'est bien la preuve qu'au contraire, il y a un besoin d'histoire.
Bah, pour faire juste vraiment sur Forte, comme on a eu la chance de faire 100 avant-premières avant qu'on ferme le cinéma, mais on le savait pas. Du coup, on a fait vraiment une vraie tournée. Et je te jure, à la fin, tu sais, dans les avant-premières, on fait des débats ou des présentations, mais en tout cas, les gens posent des questions ou te donnent leur ressenti. Et je n'ai jamais eu autant de gens ou de mères de famille qui venaient avec leurs enfants, mais toutes différentes, hein, que ce soit des femmes blanches, rebeux, renois. Il y avait même un couple qui était homo, mais qui avait adopté une enfant, qui était chinoise. C'est-à-dire, vraiment, je peux te dire, il y avait de tout. Et à chaque fois, ils me disaient, mais merci, parce que ma fille, quand elle allait à l'école, elle avait une petite boule au ventre. Et le fait de voir des gens à la télé qui lui ressemblent, des gens normaux, bah, du coup, ça lui fait vraiment plaisir, parce que les gens lui en parlent en cours de récré. Enfin, tu vois, il y a eu un truc de... Putain, alors, je sais pas si j'ai fait bouger les choses. En tout cas, il y a au moins une demi-douzaine de gosses vers Strasbourg qui étaient un peu cool avec Forte, tu vois. Et ça m'a fait grave du bien, parce que je me dis, venez, on fait des films avec des gens qui nous ressemblent. Bah ouais. Moi, je me sentais pas trop... je m'identifiais à pas grand monde, tu vois. J'étais fan de Louis de Funès.
Ça, c'est intéressant. Bah, parce que lui non plus, c'est pas vraiment un canon, en réalité.
Ouais, mais tu vois, c'était un mec différent. Et comme nous, on se sentait différents, bah, du coup, on s'est rallié à un mec qui faisait des bruits bizarres et qui avait une calvitie, tu vois. Mais en vrai de vrai, j'avais pas une meuf qui me ressemblait. Mm. C'est pas vrai. J'avais Zidane, et encore, même mec avec une calvitie, mais... j'avais pas, je te jure, c'était un rebeu, donc on s'est tous un peu identifiés. Mais en vrai de vrai, il n'y a pas de meuf, moi, de ma génération, que je pouvais regarder, peut-être un peu une Diams. Et tu vois, c'était pas une rebeu, mais au final, bon, je l'ai voilée, donc c'est pas mal.
Ouais. non, mais c'est super intéressant. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a encore un signal aussi du fait que ça avance, c'est que dans Miskina et dans Forte, moi, tu vois, la première fois que je les ai vus, là, je les ai re-regardés avant ton interview avec un regard plus critique, mais j'étais là genre, ouais, mais enfin, c'est chiant parce que, encore une fois, il faut que la meuf grosse, elle maigrisse, elle apprenne à marcher avec des talons, elle devient féminine et elle se trouve un mec pour être heureuse. C'était là genre, bah, on peut pas juste faire une sorte d'une meuf grosse qui est, on s'en fout qu'elle est grosse.
Ils étaient pas prêts, ils auraient pas été prêts, je te jure.
Mais là, du coup, je trouve que dans ton dernier film, Très Très Grande Classe, c'est déjà un peu mieux, même s'il y a quand même un objectif de trouver un mec et tout. Bah, en même temps, elle le trouve sans vouloir, d'ailleurs, le mec.
Ouais, mais tu sais ce qui m'a touchée dans ce film-là, qui est un film archi-familial, qui est vraiment comédie-comédie. Ce qui m'a touchée, c'est que c'est la première fois de ma vie que je reçois un coup de fil d'un réal qui me dit « Je veux que tu sois une prof de français. » Et que tu sois une femme qui n'est pas forcément heureuse, mais qui va tomber amoureuse. Et je me dis « Waouh, on ne me l'a jamais proposé, tu vois. » Soit j'étais la rigolote de service, soit j'étais la grande gueule, parce que j'ai une voix rauque, ou tu sais, je suis... Tu sais, ils disent souvent les meufs un peu grosses ou les meufs humoristes, c'est des meufs qui ont plein de choses à dire, et tu sais, c'est comme une forestie, t'as l'impression qu'elle va te faire rire tout le temps et tout, mais en fait, on est juste des meufs. Enfin, tu vois, on peut être douce, si on est énervé, bah, on parle un peu fort, mais comme les mecs, tu vois. Et tu vois, ça m'a frappé aussi dans l'humour, ce truc-là, de un mec, il a le droit d'être vulgaire sur scène. Si demain, il fait un sketch un peu vulgos, on va lui dire, attends, c'est un génie quand même, il va loin.
Il est irrévérencieux,
je l'ai entendu, tu vois. Et quand une meuf fait le même sketch, elle est vulgaire. Et je me suis dit, waouh, là on a du chemin à parcourir. Et je te parle de ça il y a 5-6 ans, c'était pas il y a longtemps. Hein. Et c'est ça, c'est là où je me dis, en fait, ouais, t'as un truc où la meuf, c'est les mecs qui écrivent beaucoup, là, tu vois, les films. Et Frédéric Kering, quand il m'a proposé ce rôle, il m'a juste dit, écoute, c'est une meuf, elle a un peu du père, mais c'est une prof de français, elle arrive pas à se faire entendre par ses élèves. Je dis, oh bah, putain, ça change.
Bah, c'est vrai que dans ce rôle, on n'en a rien à foutre de ton poids, on n'en a rien à foutre de ton origine.
Ouais, on fait pas un sort de tout ça.
C'est juste un perso de meuf, en plus avec ses petites ambiguïtés, à la fois altruiste et égoïste.
Oui, mais comme n'importe quelle personne, voilà, tu vois, ça peut être ta collègue, tu vois.
Je l'ai trouvé super, ce film.
C'est
Alors, attends, parce que là, on part complètement... on s'éloigne de mes questions.
Ah, merde.
Non, alors voilà, moi, je voulais savoir, en fait, si t'étais pas un tout petit peu contrôle fric. Toi aussi. Un peu comme quand tu parlais de Diams tout à l'heure. Parce que tu vois, quand je t'entends parler de Miskina, de l'équipe de scénaristes que tu as créée autour de toi, ou quand je t'entends dire j'ai l'impression d'être une très mauvaise comédienne et que s'il n'y a pas de choses qui me touchent, je ne vais pas réussir à bien jouer, des choses comme ça. J'entends la meuf un peu contrôle fric, qui a envie que tout soit nickel, parfait, qui se met la barre hyper haut tout le temps.
Bah écoute, je sais pas, parce que moi je ressens pas ça. Enfin. C'est un, bah là, tu touches un truc, on va faire une psychanalyse. Hein.
C'est toujours un peu ça.
C'est un peu ça, j'ai envie de m'allonger, mais en même temps, le fauteuil est rouge.
Hein. On est pas mal, hein.
On est pas loin.
C'est un peu confortable, tu vois. Je fais toutes les conditions sont réunies pour que tu te laisses porter.
Un petit tapis et tout, j'ai envie de parler de Sigmund. Mais non, je sais pas. Alors, je pense que c'est inconscient pour le coup, parce que j'aime bien tout contrôler. Par exemple, j'aime pas boire d'alcool, j'aime pas prendre de cachet. Tous ces trucs-là, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que je vais perdre le contrôle. Et ça, c'est vrai que j'ai un problème avec ça. Après, dans le travail, j'aime bien m'inventer une life de meuf qui fait pas gaffe, qui est un peu à l'ouest. Je sais pas, c'est un truc comme quand on me dit « t'es drôle », je dis « ah, mais je fais pas exprès ». J'arrive pas à assumer des trucs cool et stylés. Donc je sais pas, il y a un truc à creuser, je vais retourner voir le kinésiologue. De toute façon, je lui dois 150 balles. Donc.
Écoute, moi je trouve cette histoire de volume est vachement intéressante.
Putain, hier, il m'a engueulé, je te jure, j'étais allongé, il me touchait, il était en train de là, prendre mon pouls.
Il prend le pouls là sur le
poignet.
Genre
1000 ans, hein, une heure, hein, ouais. Il est resté comme ça.
Ouais, j'ai déjà fait une fois,
c'est vrai.
C'est un peu spécial.
Ah bah écoute, j'ai pas détesté, en tout cas je trouvais que ces mots résonnaient. Mais il m'a dit un truc à un moment donné, il m'a dit « vous n'êtes pas en surpoids, c'est un édredon que vous êtes créé ». J'ai dit « waouh, un édredon, c'est pas un plaid, hein, c'est un édredon ».
Incroyable.
Et j'ai dit « ok, super, bah écoute ». Et après il m'a dit « c'est du survolume ». Et après j'ai dit « ah ouais, c'est parce que je parle fort ». Il m'a dit « non, c'est du survolume, c'est pour avoir chaud ».
Je vais te poser maintenant la question la plus psychanalytique de la poudre.
Attends, je m'allonge.
Melra, est-ce que t'es née femme ou est-ce que tu l'es devenue?
Elle est dure, cette question.
Ouais.
T'as pas une copie double?
Vas-y,
copie double à quatre couleurs et j'y vais.
Fais-moi une intro, une conclusion.
À moi, pour le coup, je pense sincèrement pendant très longtemps que je pensais que j'allais devenir une femme. Et plus j'avance et plus je me rends compte que j'étais née femme. Vraiment. Mais en essayant de faire un film comme Fort ou en essayant de dire... Parce que moi, j'avais un grand problème avec la féminité. C'est-à-dire que je me suis dit, elle va arriver, c'est comme l'éclipse. Je l'attendais comme as et je me dis, elle passe tous les 12 ans. Et j'ai raté le coche une fois, et du coup, il faut que j'attende avec mes petites lunettes, tu vois. Et en vrai, de vrai, je crois que je ne l'ai pas raté, la féminité. Je crois que j'ai trouvé ma féminité au fil des années. Mais foncièrement, je suis née femme. Alors qu'avant, je t'aurais dit non, je pense que je suis née garçon manqué pour l'OM. Et en fait, je pense qu'une vraie femme, c'est ça.
Parce que c'est vrai que dans Forte, il y a toute une réflexion sur la féminité qui passerait. Elle a des échanges avec ses potes, ou genre, il faut que tu parles doucement et que tu aies l'air un peu fragile, que tu regardes en dessous, que tu croises les jambes. Et en fait, c'est une codification très, très sociale de la féminité.
Ouais, c'est ce qu'on nous a appris. Mais tu sais, c'est quand je parlais de la société qui te regarde mal et que du coup, toi, tu baisses les yeux et tu dis waouh, je suis pas à ma place. C'est clairement le. T'allumes ta télé. Tu regardes les séries, tu regardes les meufs qui nous représentent à la télé, tu regardes les magazines de mode, bah putain, tu te dis, mais je suis à côté, il faut que je fasse un atelier de femmes, il faut que je fasse un stage intensif. Et c'est ce que j'ai toujours compris, et j'ai toujours eu des copines archi-féminines, moi. J'ai toujours été celle en survêt qui arrivait en boîte, et toutes les copines, elles étaient déjà sur le dance floor à se faire chiner. Et moi, j'attendais, je gardais les sacs, tu vois, comme ça, on n'était pas obligé de les sauvestir. Et du coup, je suis la meuf qui a gardé les sacs très longtemps, et un jour, t'as un mec qui est venu me voir, et une fois, je me suis dit, bon, il vient me voir pour les mauvaises raisons. Et oui, la deuxième fois, mauvaise raison. Et la troisième fois, je tombe sur un mec qui est venu me voir pour discuter. C'est hyper agréable. Et après, je sors avec, tu vois. Mais il y a quand même un truc où c'est compliqué. Parce que t'as raison, on nous envoie les mauvais codes depuis le début. C'est comme s'il y avait des mecs qui avaient tout codifié dans la société et qu'ils avaient fait ils avaient erroné toute leur saisie, en fait. Je pense sur la femme.
Et quand tu dis que tu l'avais dès le départ, tu fais référence à des valeurs ou à quelque
plus
chose?
Plus à des valeurs, à un ressenti. Et puis je me sens foncièrement femme quand je vois un môme, par exemple, ou un bébé, où je vois que j'ai des réactions de vraie femme. Mais c'est quoi être une vraie femme, en fait? C'est là où il faut se poser vraiment la question. Est-ce qu'une vraie femme, c'est une meuf qui minaude et qui a peur quand il y a un monsieur qui la suit? Non, c'est pas ça une vraie femme. Je crois qu'une vraie femme, bah, c'est un vrai bonhomme, en fait. Alors, elle est folle, cette phrase, mais en tout cas, franchement, j'y crois. Toutes les femmes que j'ai vraiment un panel assez large de femmes autour de moi, que ce soit mes potes, ma famille et tout ça, et j'ai des meilleures amies qui ont des enfants, qui sont là à dormir avec leurs enfants quand ils sont malades jusqu'à 4h du matin, après elles les accompagnent au judo, après c'est des femmes seules, après c'est ma mère, quoi, tu vois, ma mère, elle nous a élevés quasi seules avec ses parents, enfin, j'ai pas le schéma familial que tu regardes dans 7 à la maison, tu vois. Donc ouais, pour moi, c'est ça, les figures de femmes, c'est Simone Veil, Madame de Beauvoir, et ma daronne, tu vois.
Ouais. Bah, ta daronne, tu lui rends aussi des beaux hommages dans les...
Oui, elle n'était pas contente, elle a dit, c'est pas comme ça que ça s'est... Elle croit que chaque chose que j'écris, ma mère, est un biopic sur elle.
Donc, tu veux dire le personnage de la mère dans Miskina ?
Ouais, t'es obligé de fictionner. Après, ma mère, elle est pas loin de ça, attention. Mais même dans Miskina, elle est folle, elle est en colère sur son ex-mari depuis 25 ans. Ma mère, elle est en colère sur son ex-mari depuis 30 ans. Enfin,
tu m'as dit qu'il y avait. J'ai l'impression d'avoir écouté les podcasts, tu me parlais à moi, c'est vraiment trop
vraiment, viens, on va boire un verre.
Que dans son portable, il y avait marqué connard.
Je te jure que c'est vrai, mais j'ai envie de faire une capture d'écran et de la mettre sur Insta. Tu sais quoi ? Quand tu sors le podcast, je fais une capture d'écran de connard de ma mère sur son iPhone.
C'est-à-dire que donc, quand ton père appelle ta mère, il y a marqué connard sur son écran. Et ça, tu le vois depuis que t'es petite.
Ouais, alors avant, il y avait connard avec un. Il y a eu une faute d'orthographe qui a évolué. Hein. Avant, c'était connard avec un T, puis après, c'est devenu connard de ND. Bon, elle a changé d'iPhone, quoi.
Mais c'est toujours le même.
C'est toujours le même connard pour elle. Et puis surtout, elle a divorcé en 98 et c'est toujours un connard, on est en 2023. C'est pour vous dire. Et ma mère, elle a plus confiance en l'homme, elle déteste les hommes, c'est tous des menteurs, ça ne sert à rien. Et pour moi, en fait, c'est elle la femme forte, tu vois. C'est la plus grande féministe, c'est ma rhum, tu vois, vraiment. Et c'est une oranaise des années 50, hein.
Ouais.
C'est pour te dire à quel point, en fait. On n'est pas les rebeux arriérés et genre à l'ancienne, avec des idées archaïques qu'on décrit, quoi, au final. Parce que ma mère, elle est blonde, elle met des talons parce que sinon, elle se sent pas à l'aise. Va comprendre. Tu vois, c'est... Puis ma mère, elle, ouais, je la ramènerai. Tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup rigoler avec elle.
On va trop parler avec elle.
Franchement, tu vas rire. C'est la plus grande féministe que j'ai connue de ma vie.
Et elle est fière de toi ?
Oui, après, attention, tu sais, dans toutes les familles, hein, une forme de pudeur, elle va me dire « je suis fière de toi » et juste après, elle va m'engueuler. Mais c'est sa manière d'aimer, je pense. Donc c'est pour ça que je suis en psychanalyse. Mais tout va bien se passer.
Mais est-ce que c'est un peu, je trouve, avec ton frère, à chaque fois que je vous vois ensemble dans l'interview, je suis un peu cringe. Je suis là, mais tu vas lui dire qu'elle est super à ta sœur là.
Ah non, il a mis le temps. Mais là, il l'a fait. On a fait quotidien. Mais par contre, il était
mais
pas
il
à l'aise.
Tout bas. Il a dit genre, oui, elle est très forte. Ou, je sais pas quoi.
C'est une cata. Rami, c'est une cata. Mais je vois que ça se bouge. Et en tout cas, il a grandi qu'avec des filles, donc il en peut plus, tu vois. Là, il vient d'avoir un enfant. Ça fait il y a 2 ans et c'est un garçon, mais sinon, il n'a eu que des filles, il n'est entouré que de filles. Franchement, Ramzi, en vrai, je le comprends. Je le comprends qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus de nous. Mm. On l'a rendu vraiment fou, je pense. Mm.
Est-ce que tu as accès à ta chambre, à toi ?
C'est-à-dire ?
Est-ce qu'il y a un endroit où tu es tranquille ?
Oh non, parce que moi, j'ai un problème. En fait, moi, là, au moment où je te parle, il y a des gens chez moi.
Arrête.
Je te jure que c'est vrai.
Tout le temps ?
Tout le temps. Genre, la doxiteuse, elle a un double, mais c'est parce que j'ai un chien. Et après, j'ai des potes qui ont des doubles chez moi parce qu'il y en a une qui vient bosser là-bas parce qu'elle adore ma table, elle trouve que c'est super, c'est un bel espace de coworking. Donc j'ai une pote qui n'a pas de bureau, elle bosse là-bas. J'ai tout le temps des gens chez moi, je te jure que c'est. J'aime bien, ça me rassure, j'arrive pas trop à être seule. Je suis un peu comme Dalida, j'aime pas le dimanche soir.
Ah ouais.
J'ai envie de faire des fêtes et tout.
Ok.
Mais du coup, ouais, j'ai un problème un peu avec la solitude. Mais il y a. Ouais, non, j'ai pas trop accès à ma chambre à moi. J'ai l'impression que tous les canapés chez mes potes, c'est ma chambre à moi, en fait. Vraiment.
Et du coup, quand t'as envie de créer, d'écrire, t'as des stratégies pour arriver à...
Bah, je m'invente toujours une vie de je vais aller en Normandie, vers être tard. Au final, je me rends compte que je finis à Marseille avec 12 000 potes. Donc ça n'a aucun sens. Mais mon moi intérieur, mon surmoi du SAD, tout ça là, en vrai de vrai, il aimerait bien aller dans une petite chaumière à 2 heures de Paris, écrire avec un feu de cheminée et un bûcheron qui me ramène du bois.
Ah, tu tends vers ça quand même.
Ah, j'aimerais bien.
Ouais. Le bûcheron quand même, on reste dans la quête un peu
amoureuse. Ouais, bah, de toute façon, on a regardé M6, la petite maison dans la prairie. Hein. Tu vois, je t'ai dit, ça revient à ce que tu regardais à la télé quand t'étais jeune.
Mais de fou.
Fallait pas nous envoyer ça.
Ça nous construit énormément. Ça évoque quoi pour toi, la poudre ?
Franchement ?
Ouais.
Sans faire une vanne, le maquillage.
Ok.
Pas du tout la coke.
Non.
Non ?
Bah, c'est pas du tout obligé.
Et après, ça fait un peu référence à la poudre d'escampette. Il y a quand même un truc un peu magique. Quand tu lis la poudre comme ça, tu te dis « Ah tiens, t'as passé un moment un peu magique » et après, ça disparaît.
Mmh. Merci beaucoup, Mélara.
Je t'en prie, merci à toi.
C'est vraiment super.
Merci beaucoup.
Merci à Mélara Vedia d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.